Bonsoir, nous recevons aujourd'hui Cyril Holtz, bonjour.
Bonsoir.
Et Niels Barretta, bonjour.
Bonsoir.
Et bien sûr, nous sommes en compagnie de Christophe Bouillot.
Bonsoir. Bonsoir.
Bien, nous allons parler cinéma, nous allons parler son, oui. Nous allons parler mixage. Cyril est mixeur, Niels est ingénieur du son, donc vous allez nous parler des problèmes et des difficultés actuellement dans le cinéma, et puis ce que vous proposez, puisque vous avez plein d'idées.
Ouais, quelques-unes. Ouais.
Des problèmes techniques surtout, on va pas se pencher sur l'état de l'industrie.
Oui, oui, ça c'est certain, on aurait trop à faire, je pense.
Voilà.
Alors vous représentez la société HAL, et la société HAL, alors qu'est-ce que c'est ?
Bah, la société HAL, au départ, c'est une association de plusieurs ingénieurs du son qui couvre un peu tout le domaine de la production cinéma. Ça va des ingénieurs du son, ce qu'on appelle direct, c'est-à-dire qui font la prise de son sur les tournages, les monteurs son et les mixeurs. Il y a un directeur technique aussi. Et voilà, on couvre un petit peu toute cette chaîne-là. Et on s'est associé pour trouver des nouvelles solutions, des idées, faire un peu de recherche... Voilà, sur les problèmes qui nous concernaient tous depuis un petit moment.
Alors, quels sont ces problèmes ?
Ce qui nous intéresse ce soir, c'est les problèmes liés à la transposition des bandes son cinéma vers les supports vidéo, c'est-à-dire DVD, Blu-ray et diffusion télé. Donc, on se plaignait beaucoup, notamment à nous, puisqu'on est les premiers concernés, du fait que, quand on entendait un film à la télé qui était fait pour le cinéma, souvent on avait des problèmes de compréhension des voix, on passait son temps à mettre plus fort, moins fort... Alors le problème était un peu moins extrême sur les choses qui étaient diffusées à la télé en stéréo, en SD, mais beaucoup plus prégnant sur tout ce qui était DVD, Blu-ray, etc. Donc, fort de nos expériences aussi, et puis nous aussi on était très frustrés par rapport à ça, on s'est dit qu'il était temps de prendre le taureau par les cornes et d'essayer de trouver une solution, enfin des solutions s'il en existait à ces problèmes-là. D'où cette idée de créer une salle de mastering vraiment dédié à la réduction des formats son-cinéma vers des formats vidéo.
Parce que si j'ai bien compris, autrefois il n'existait pas de salle précise spécialisée là-dedans ?
Non, c'est-à-dire que la demande des formats son pour la vidéo était moindre, puisque effectivement, il y avait la diffusion télé, mais en dehors de ça, il y avait les VHS, etc., ce qui remonte très loin. Et puis avec l'avènement du DVD, des Blu-ray et autres diffusions télé en multicanal, sont nés de nouveaux besoins, c'est-à-dire qu'il y avait quelque chose de paradoxal, les gens voulaient être plus proches des bandes son originales cinéma, mais en même temps, on avait plus de mal à les exploiter parce que elles n'étaient pas du tout adaptées à des diffusions télé ou sur des supports vidéo. Les bandes son étaient trop dynamiques, les écarts entre son fort et son faible étaient trop importants, et puis il y avait des gros problèmes de compréhension des dialogues parce que ces bandes son étaient en premier lieu destinées à une diffusion en salle de cinéma, et les contraintes ne sont pas du tout les mêmes. En salle de cinéma, on a le droit à une dynamique très importante, en télé, beaucoup moins, parce qu'on ne regarde pas, on n'écoute pas un film chez soi comme dans une salle de cinéma.
Malgré ces nouvelles installations que font les gens avec des home cinéma et autres, y a quand même une différence entre ceux qui sont avec multiples enceintes et autres pour regarder un film et celui qui n'a que sa petite télé.
Absolument. Et justement, ça fait une multiplicité de formats. Et c'est-à-dire que l'idéal, ce serait de pouvoir proposer aux gens qui n'ont qu'une télé un programme son qui s'adapte aussi bien chez eux que sur la personne qui a une installation démentielle. Donc, c'est très difficile d'obtenir une bande son qui soit compatible avec toutes ces installations-là. L'idéal, ce serait d'avoir une seule bande son qui satisfasse tout le monde et qui soit adaptable sur tous les supports, mais c'est absolument pas le cas.
Quel est le travail de Niels dans cette opération ?
Mon travail, en fait, c'est d'accueillir les mixeurs dans cette salle de mastering. C'est de les encadrer parce que, en fait, ils arrivent dans un lieu qu'ils ne connaissent pas et ils sont assez vite déstabilisés par l'écoute parce que on n'est plus dans une écoute cinéma, on est dans une écoute domestique, donc on n'a plus du tout les paramètres qu'on a dans une écoute cinéma. Et moi, je les accueille, je prends en charge tout le côté technique du mastering. Je leur laisse, en fait, la prise en charge du son, en fait.
D'accord, c'est pas vous spécialement qui vous occupez de tout, finalement.
Ça dépend, c'est-à-dire qu'évidemment, comme le disait Niels, quand un mixeur arrive, lui, il est fort de son expérience, évidemment, en mixage cinéma, et aussi de la parfaite connaissance qu'il a de la bande-son, puisqu'il vient avec son film. Au départ, effectivement, Niels est là pour l'orienter sur des choix techniques, mais aussi, du fait de son expérience, Niels a masterisé déjà un certain nombre de films, donc il sait vers quoi il faut aller, il connaît parfaitement les contraintes, notamment des chaînes de télé, par rapport à la diffusion, et il a employé beaucoup d'outils techniques dont il connaît les qualités et les défauts.
Parce que ce que je fais en général, c'est que je viens voir le film dans l'auditorium de mixage, et donc je m'habitue à la dynamique du film, je m'habitue aux réglages, au son, et en fait après, quand j'arrive dans la salle de mastering et qu'on commence à travailler, j'ai déjà un petit peu en tête ce que je dois faire.
Sur quel type de support vous bossez ? Vous récupérez des stems que vous remixez vraiment pour adapter au support final, ou est-ce que vous récupérez vraiment une bande-son un peu comme en musique, où l'ingénieur du son de mastering récupère un master stéréo sur lequel il va faire ses traitements ? Est-ce que vous faites du, entre guillemets, du remix ou juste vraiment du traitement sur les bandes finales ?
Non, vraiment, l'optique, c'est vraiment du remix, parce qu'on s'est aperçu qu'avec les expériences passées, que malheureusement, si on partait de la bande son originale, c'est-à-dire du 6 pistes, du 5-1 original, c'était vraiment trop compliqué, on était contraint de faire trop de concessions. Donc on s'est dit, voilà, à partir du moment où ce qu'on appelle le multi, c'est-à-dire la somme des prémixages, paroles, musique, ambiance, effets, bruitage, est strictement égale au 5+1 global, à partir de ce moment-là, on pouvait agir directement sur ces éléments pour pouvoir les rebalancer en fonction des nouvelles écoutes et des nouvelles contraintes qu'on a. Donc l'idée, c'est vraiment, au lieu de se dire, bon, allons-y à partir de la bande-son et on fait ce qu'on pourra, là, c'est de dire, c'est une étape à part entière, c'est une étape de remixage.
Et justement, les mixeurs, ils ont vu ça d'un bon œil. Quel a été l'accueil quand vous avez dit, parce que c'est une grande première, j'imagine, quand vous avez dit, on va prendre vos trucs, on va les masteriser, on va refaire les...
Ouais, mais c'était un besoin qu'on avait tous. Moi, je suis mixeur, donc je sais que j'avais ce besoin-là. Il y a déjà des mixeurs qui ont pris les devants, sans doute, et qui, chez eux, par exemple, sont constitués leur petite installation pour faire ça. Nous, on s'est dit, voilà, on va essayer de créer un outil assez polyvalent qui obéissent à un certain nombre, à un certain cahier des charges.
On a vécu une grosse crise dans la musique, enfin on vit toujours une grosse crise depuis quelques années. Dans le film, on entend dire que ça commence à arriver. Vous n'avez pas de soucis pour entre guillemets, imposer ça aux productions ? Combien de temps ça prend ? Parce que si vous faites le remixage complet, j'imagine que ça prend pas mal de temps. Vous arrivez à imposer ça ? Vous arrivez à leur faire entendre raison, à leur faire comprendre que c'est pour eux, dans leur intérêt ? Il n'y a pas eu trop de réticence ?
Bah, ça fait partie de la démarche, vraiment. Le premier truc dans cette démarche, c'était de dire ça suffit de faire les choses à la va-vite, quoi. C'est-à-dire qu'effectivement, on se retrouvait dans une situation aberrante où on était dans un auditorium de cinéma, donc qui n'est pas du tout adapté à une écoute domestique. Donc, c'était totalement aberrant. Ce n'est pas les mêmes problèmes qu'on rencontre, ce n'est pas les mêmes installations, etc. On a aussi créé la compétence de Niels, qui est le premier à faire ça. Donc, évidemment, Niels est rétribué. Évidemment, ça a un coût. Et au début, les productions, bien sûr, étaient un peu réticentes, parce que c'est vrai que ça leur coûte plus cher.
Alors, je reprends ce que tu viens de dire, et je demande un peu une confirmation. C'est-à-dire que le travail que vous faites se fait en amont, avant la présentation dans les salles, ou alors vous pouvez venir, une fois que le film est passé dans les salles, on vous demande de revenir sur les bandes-son pour qu'elles puissent passer soit en DVD, soit dans les télévisions. Ça se passe comment ?
Alors là, en fait, une fois que le film, le 5-1, enfin la bande-son originale du film est faite, est décidée, actée, validée, etc., la diffusion en salle importe peu. C'est-à-dire que c'est des travaux qui peuvent se faire soit dans la continuité de ces travaux-là, des travaux du film en salle de cinéma, soit un peu après. Mais en général, les productions préfèrent que tout se fasse dans une même langue. C'est indépendant, finalement, du passage en salle, puisque ce n'est pas du tout le même format. Mais en même temps, c'est dans la continuité.
En revanche, est-ce que, par exemple, des producteurs qui ont des films qui ont 2-3 ans seraient intéressés de refaire des bandes-son pour la télévision pour que leur film passe mieux ?
Alors, on n'a jamais eu cette demande, mais c'est une très bonne question, parce que nous-mêmes, enfin les mixeurs de Halle et d'autres mixeurs, je pense, aimeraient bien revoir les bandes-son des DVD, par exemple, qui ont été faits il y a quelques années, parce qu'on était moins pointu, évidemment, sur les problèmes qu'on pouvait rencontrer chez les gens, par exemple, à la lecture des DVD, etc. Et donc, moi, il y a plein de, il y a plein de films que j'aimerais bien voir, revoir passer par, entre les mains de Nils et en mastering pour pouvoir optimiser, évidemment, le résultat chez les gens, quoi.
On le voit bien dans les albums CD.
Ouais, alors peut-être. Ouais, ça serait génial. Moi, je souhaite que ça arrive. Ça ferait nous des gens heureux, je pense. Mais bon, pour l'instant, c'est peut-être en tout cas un processus trop jeune pour qu'on nous l'ait demandé. Je pense que ça se fait, par exemple, il y a sûrement des éditeurs qui ont dû demander ça sur des vieux films, par exemple, à des boîtes spécialisées. Dans les travaux vidéo, je pense. En tout cas, nous, dans notre façon d'aborder les choses pour des films, on va dire, produits récemment, ça ne nous est encore jamais arrivé.
Est-ce que c'est une méthode de travail qui se connaît et que l'on utilise souvent aux États-Unis ou ailleurs, ou vous êtes les premiers ?
À vrai dire, je ne sais pas. Aux États-Unis, il y a sûrement des boîtes spécialisées. Je pense qu'ils ont strictement les mêmes problèmes que nous, c'est-à-dire... les mêmes plaintes des gens qui trouvent que le son des DVD ne les satisfont pas parce que c'est trop dynamique ou il y a un manque de compréhension des paroles, d'intelligibilité.
J'imagine que vous pouvez pas faire un nombre de films énorme au niveau de bande son puisque c'est toujours vous, enfin c'est vous qui le faites. Ça se traduit par combien de films par an, par exemple?
Bah, là, disons que là, c'est un peu jeune, c'est-à-dire qu'on a moins d'un an.
Vous avez des perspectives ou pas?
Bah, ce qu'on sait, c'est que plus ça va, plus on en fait.
Ouais.
Et que c'est très encourageant, parce qu'évidemment, comme on l'évoquait tout à l'heure, au début, il y avait des réticences. Mais là, en tout cas, au fur et à mesure, on fait de plus en plus de films. Je sais pas, ce mois-ci...
On a fait, je crois, 5-6 films.
C'est pas mal.
Alors, évidemment, comme il y a plusieurs mixeurs chez HAL, on essaye chacun des mixeurs pour que le travail soit bien fait. On essaye d'amener les productions à travailler avec nous pour les mastering vidéo. Et maintenant, c'est vrai qu'on a de plus en plus d'autres mixeurs qui sont intéressés.
En moins d'un an, vous avez pris un sixième de la production française, finalement.
Peut-être pas quand même, je sais pas, mais non, je pense pas. Et puis c'est pas l'objet. L'objet, c'est vraiment d'accéder à une meilleure qualité, de faire les choses mieux. Évidemment, on est très content si ça marche et surtout si les gens optent pour ce genre de solution parce qu'on est sûr que c'est la bonne. L'expérience nous l'a montré. Donc évidemment, le but, c'est pas d'en engranger énormément. De toute façon, HAL est une petite société, donc on n'a pas les moyens d'engranger un nombre de films hallucinant. De toute façon, je pense que ça ne sera pas le cas. Mais en tout cas, on est content parce que ça fonctionne et l'idée semble vraiment plaire à beaucoup de gens.
Votre société est toute jeune. Est-ce que vous allez faire comme certains artistes, c'est-à-dire choisir les films qui vous plaisent?
Non, parce que... Non. Le but, c'est vraiment d'arriver à faire en sorte que tous les films qui se reconnaissent dans cette façon de faire les choses aient un résultat qui corresponde à leurs besoins, etc. Donc on fait pas évidemment de sélection sur les films. Tout ce qu'on fait, c'est de dire c'est vraiment dédié aux films de cinéma. Et il ne s'agit pas de faire des téléfilms, par exemple, puisqu'ils n'ont pas les mêmes contraintes.
Mais je vais en parler, moi, tout de suite, justement. Ouais.
Et voilà, et après, tous ceux qui sont tentés par l'idée d'essayer, etc., on les accueille avec plaisir.
Alors, vous parliez tout à l'heure des films avec des dynamiques assez fortes qui passaient à la télévision et qui devenaient inaudibles. Mmh. Ils ne sont pas tout seuls, puisque actuellement, depuis environ 2 ans, on assiste à la télévision à une série de fictions françaises qui deviennent complètement inaudibles, justement, par ce problème de dynamique assez forte, avec soit des bandes-sons qui sont très très fortes, donc on entend les bruits arrière qui sont plus importants que le type qui parle, et ce qui fait que maintenant, on a beaucoup de séries, enfin beaucoup de fictions qui deviennent inaudibles. Alors, vous dites que vous allez vous occuper que de films, mais si par exemple la télévision frappe à votre porte pour vous dire, ben voilà, on voudrait faire des DVD, mais avec des bandes-son correctes.
Alors, je pense pas que ça arrive, parce que dans la chaîne de... Enfin, dans la télé, vraiment les films qui sont produits pour la télévision, il y a une chaîne de production déjà bien établie. Donc, c'est vrai qu'ils font rarement appel à des prestataires qui sont spécialisés dans le film. Alors évidemment, il y a peut-être des films qui pourraient faire le pont dans le cadre de fiction télé qui peuvent passer en salle de cinéma, où là, ça serait peut-être plus évident.
Tu parlais tout à l'heure du format. Vous pourriez rapidement nous les lister, nous dire un petit peu si c'est du multicanal, du stéréo, et nous dire un petit peu quelles sont les contraintes qui s'appliquent à chacun en termes de bande passante, j'imagine, parce que quand on est sur les haut-parleurs de la télé, c'est pas pareil que quand on s'adresse à quelqu'un qui a un 5.1, les dynamiques, etc. Est-ce que vous avez toutes ces données-là en tête?
Ben, le premier format en fait que j'ai l'habitude de faire, c'est le format Blu-ray, parce que la première raison en fait, c'est qu'il est à 24 images par seconde, donc la même cadence que le film. Et en fait, c'est un format où il y a deux formats en fait. Il y a le 5.1 Blu-ray et le stéréo Blu-ray. Ben là, ça dépend du film quoi. Ouais, c'est dur de dire. En fait, moi, j'adopte un niveau d'écoute qui est de 70. Enfin, pour le Blu-ray, en fait, j'écoute à 79 dB. SPL, et donc j'essaye à ce niveau de garder quand même tous les sons, qu'on n'ait pas vraiment l'envie de changer le niveau. Donc en fait, la dynamique, elle est plutôt du côté de la limitation, parce que là, on n'est pas obligé de limiter en dessous de 0 dBFS, par exemple. Après, donc voilà, il y a une version stéréo pour le Blu-ray, donc toujours à 24 images par seconde, et pour la version stéréo, on peut se dire que quand même, les personnes qui achètent un Blu-ray qui regarde en stéréo, c'est qu'ils ont une installation peut-être plus bas de gamme. Donc dans ce cadre-là, j'ai une dynamique beaucoup plus... Enfin, j'essaie d'avoir une dynamique plus faible. Donc après, on a les formats DVD. Donc là, il y a également 5.1 et stéréo. Les DVD, en fait, c'est pas du tout la même cadence. C'est 25 images par seconde. Donc en fait, pour le DVD, j'essaie d'avoir une dynamique quand même plus faible que le Blu-ray. Parce que je considère quand même que... Il y a beaucoup d'installations DVD qui sont quand même de mauvaise qualité. Je pense que c'est plus commun en fait que le Blu-ray. Après, il y a aussi des formats en fait télé. Donc il y a un format 5.1 et un format stéréo. Donc là, la télé, ben, j'essaie d'aller dans le sens justement de l'installation plus bas de gamme et de rendre la dynamique encore plus faible. Et évidemment, pour la télé stéréo, là, c'est encore pire parce qu'on est limité à moins 9 dB FS. Enfin, maintenant, c'est ça la norme. Et après, on a également des VI, en fait, c'est les versions internationales sur lesquelles on va insérer, enfin, les étrangers vont insérer des doublages. Donc là, on fait, ça dépend en fait, là, c'est vraiment les productions qui choisissent. Mais en général, on fait une version 5.1 à 25 images par seconde et une version stéréo à 25 images par seconde, voilà.
Ceux qui vont écouter le film juste à la télé, comme ça, sur leur télé, quel qu'en soit l'âge ou la qualité, eh ben évidemment, ces gens-là ont besoin quand même d'avoir tout ce qui est nécessaire à l'écoute du film pour entendre les dialogues, pour comprendre les effets sonores, etc. Et donc, il faut que la dynamique soit très réduite sur ces formats-là. Et on était évidemment, la création de cette salle de mastering était évidemment liée au fait que nous-mêmes, on avait des grosses frustrations de ne pas entendre les dialogues de certains films qu'on avait mixés, de constater que sur les DVD, justement, on passait notre temps à changer les niveaux parce que quand les effets sonores, les scènes d'action arrivaient, on s'en prenait plein la tête. Et quand les scènes dialoguées intimistes... suivait, ben, on n'entendait plus rien. C'est pour ça qu'on fait autant de formats et que tant que ça reste dans les mains de la production, tout le monde est au courant de quel format correspond à quel support au final. Mais après, pour des besoins, de temps en temps, c'est vrai que les formats stéréo qu'on fait par exemple pour les Blu-ray et les DVD sont pas systématiquement choisis pour des raisons de place. C'est-à-dire que souvent... à l'édition du DVD, ils choisissent de mettre des bonus, donc ils ne veulent pas s'encombrer d'une version stéréo. Donc ils font une réduction stéréo à partir du 5.1 qu'on leur livre. Et là, forcément, la réduction est faite par la machine, le processeur, chez les gens, donc c'est beaucoup plus instable et délicat.
Et comment vous gérez, je ne sais pas si vous faites un mixage particulier pour les formats de streaming, type, je pense à l'Apple TV par exemple, avec iTunes qui propose des films en téléchargement HD ou pas.
Pas encore, mais peut-être qu'un jour on y... Ouais, sans doute. Après, il faut qu'il y ait, c'est vrai, une demande. Mais évidemment qu'on y pense. Peut-être qu'on y viendra, ouais.
Alors comment ça se passe pour les films étrangers? Je veux dire, ceux qui sont vendus en DVD en France et qui sont passés à la télévision. Est-ce que dans ces cas-là, l'opération est faite en amont par justement par les Américains ou par les producteurs américains, ou alors on fait appel à vous?
Alors, on ne fait jamais appel à nous, puisque, encore une fois, c'est assez nouveau et, ouais, on ne fait pas. Je pense que
ça
là.
Ça peut se faire ou
Oui, ça pourrait se faire, tout à fait. Ça pourrait très bien se faire. Après, je sais que, selon les pays, quand un DVD est édité aux États-Unis pour un film américain, par exemple, eh ben, c'est une boîte d'édition, évidemment, américaine qui fait les travaux. Quand la version française est faite, elle est faite en France. Donc, finalement, les traitements ne sont pas forcément les mêmes. Donc, j'imagine que les résultats varient beaucoup. Et après, c'est finalement le prestataire qui choisit d'appliquer ou non, par exemple, une compression dynamique sur le son. C'est lui qui s'occupe de la facture. Donc, là encore, il y a des habitudes. C'est toujours très difficile de changer les habitudes. Justement, nous, on y arrive parce qu'on a une étape de la production et on est acteur de la production d'un film. Donc, on peut, pas imposer, mais on peut faire plier, incliner le résultat vers ce qu'on prône, quoi. Autant quelque chose sur lequel on n'a aucune... un film sur lequel on n'a aucun rôle... Au départ, c'est très difficile de dire bah, venez chez nous, vous allez voir, c'est formidable. Donc, on y va petit à petit, mais si vraiment les gens jugent que le jeu en vaut la chandelle, et ben, peut-être que ça arrivera. Ouais.
On peut parler un petit peu de matériel. Qu'est-ce que vous utilisez comme type de matériel pour faire ça?
Ben là, c'est très simple. On a vraiment pris le parti, contrairement à ce qui était fait avant, d'essayer de se rapprocher le plus possible d'une configuration domestique. Donc Niels peut vous en dire plus.
Bah en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on travaille dans une salle qui n'est pas complètement traitée acoustiquement. Donc ça pourrait ressembler un peu à un salon. Donc on a quand même, on essaie de ne pas avoir trop de défauts acoustiques, mais on a quand même une salle qui ressemblerait au niveau acoustique à un salon, avec un peu de résonance, dans le bas surtout, dans les graves. Donc pour retrouver quelque chose qui pourrait correspondre à ce qu'on a à la maison, un peu de bruit de fond. Parce que à la maison, on a ça aussi. Et du coup, à partir de ça, on peut travailler, disons, dans des conditions qui diffèrent totalement de la salle de mixage, qui est une salle quasi, enfin pas anéchoïque, mais où on n'a pas du tout de bruit de fond et peu de résonance. Donc ensuite, on a deux écoutes en fait, 5.1. Une écoute Mackie, c'est des H824, et une écoute Bose Acoustimass. Donc là, c'est en fait, c'est l'écoute qu'on retrouve le plus chez les personnes. Et ces deux écoutes, en fait, elles sont assez complémentaires parce que on a une écoute Bose avec du bass management. Donc ça veut dire que tous les graves qui vont dans tous les canaux sont redirigés vers un sub. Et on a les Mackie qui sont un petit peu plus, enfin qui sont du domaine un peu plus de la haute fidélité, mais qui pourraient se retrouver chez une installation un peu plus haut de gamme. Et on a aussi une écoute stéréo à travers la télé. Donc en fait, à partir de ces trois écoutes, on peut juger quand même de la compatibilité du mixage, sinon pour parler matériel.
Oui. C'est assez simple, c'est un Pro Tools, puisque tous les fichiers en général qui viennent des auditoriums sont soit lisibles, soit enregistrés sur Pro Tools. Tous les prémix nous viennent sous forme de fichiers Pro Tools, qu'on intègre à des sessions, et après on mixe en utilisant une interface de contrôle de ce Pro Tools, Phonics. Et évidemment, la partie la plus importante, c'est le monitoring. Alors, on a un monitoring de grande qualité, c'est un Grace Design M906, qui nous permet de pouvoir passer d'une écoute à une autre, puisqu'on a du coup trois écoutes. Alors, ces trois écoutes, comme Niels le disait, il y a une écoute stéréo, télé, vraiment très basique. Pour l'écoute Bose, on a demandé à des revendeurs grand public quel était le système qui vendait le plus de tous, et sans aucune hésitation ils nous ont dit voilà, c'est celui-là, c'est le Bose. Donc on a pris celui-là pour essayer de coller un maximum d'installations, et les Mackie qui sont plus des enceintes de monitoring studio, on va dire, mais effectivement qui permettent d'être assez représentatifs d'une installation de meilleure qualité. Mais voilà, finalement le matériel c'est pas grand chose puisqu'il n'y a pas tellement de traitement. Le but étant de se dire voilà, les problèmes que les gens ont chez eux viennent en partie du fait qu'ils n'écoutent pas dans des super conditions. Il y a du bruit, il y a les voisins, ils ne peuvent pas mettre trop fort. Il y a des résonances souvent dans le grave, les bas médiums, ce qui est le plus calamiteux pour les voix, parce que quand les voix sont trop chargées dans ces fréquences-là, ben, du coup, ça pose des gros problèmes d'intelligibilité. Et donc, le but était de se dire, on peut pas travailler pour une écoute qui est comme chez les gens quand on écoute sur un monitoring de super haute qualité qui est plate de 20 à 20 000, ce qui n'est pas le cas en cinéma d'ailleurs. Mais en tout cas, il faut essayer de coller au mieux, même si on ne peut pas avoir une solution universelle, de coller au mieux à une écoute domestique. Donc c'est ce qu'on a essayé de faire. Après, évidemment, on n'est pas représentatif de tout. Mais en tout cas, on a une plage assez large.
Comment ça se traduit pour le kidam moyen qui veut acheter un DVD ou autre, pour choisir entre les différents formats? Comment ça se passe?
Lui, il n'a pas de questions à se poser, puisque lui, il choisit le format sur lequel il veut voir et écouter son film.
Ça veut dire qu'on va avoir, par exemple, DVD différents? Comment ça se passe?
Non. Il y aura un seul DVD, mais qui réunira, dans le cadre des travaux qu'on fait, deux formats, un format 5.1 et un format stéréo. Alors évidemment, le format 5.1 pour le DVD, c'est celui qui est réservé, on va dire, aux gens qui ont une installation home cinéma. Et le format stéréo à ceux qui n'ont pour écouter le DVD que les haut-parleurs de leur télé ou des haut-parleurs stéréo. Donc évidemment, le format 5.1 est toujours plus dynamique, plus respectueux du format original du film qui est 5.1. Et le format stéréo est souvent réduit à la fois en termes d'espace, puisque c'est sur deux haut-parleurs, et en termes de dynamique, puisque en général, on estime que quand on écoute un programme en stéréo, c'est soit sur sa télé, soit sur des enceintes de moins bonne qualité.
Quelque chose à rajouter, Niels, pour un mot de la fin?
Un mot de la fin. Non, c'est vrai qu'on n'a peut-être pas beaucoup parlé de la manière dont on abordait les choses, en fait, pendant le mastering. Mmh. Parce que finalement, on se retrouve dans des conditions qui diffèrent, et de la salle de l'auditorium, en fait, de mixage. En fait, il y a vraiment des différences. Par exemple, quand on baisse le niveau d'un mixage, de type cinéma, et qu'on l'écoute plus faible, on va avoir vraiment une autre approche, j'ai l'impression, parce que on est face à un écran plus petit et on a besoin que les sources soient hiérarchisées d'une autre manière. Par exemple, dans une séquence ou dans la salle de cinéma, on aurait beaucoup de musique, une boîte de nuit. Là, on peut, dans la salle de cinéma, avoir beaucoup de dynamique, beaucoup de niveaux, et on ne sera pas gêné. Mais par exemple, quand on est dans la salle de mastering, on va s'apercevoir qu'à bas niveau, la musique, elle va prendre une place énorme, et que les voix, on ne va plus du tout comprendre ce qui se dit. Donc c'est là, en fait, qu'on essaie de hiérarchiser les sources un peu différemment. Ouais. Voilà, c'est pour ça que j'ai l'impression aussi que le mastering, c'est... on réduit la dynamique, mais on l'aménage aussi d'une autre manière, en fait.
En fait, garder une espèce de relief, de spatialisation du son au niveau du film quand il passe à la télévision.
Ouais, et que le réalisateur, finalement, que ce soit transparent pour lui ou le mixeur. C'est-à-dire que, évidemment, s'il écoute son film dans la salle de mastering en arrivant comme ça sans qu'aucun travaux n'ait été fait, il est troublé, il est même inquiet parce qu'on ne l'écoute pas pareil du tout et c'est moins fort, ça paraît mou, il y a plein de choses qui passent à l'as, etc. Et le but vraiment de Niels, de l'ingénieur du son mastering et de cette étape, c'est d'arriver à rendre un peu de ces sensations qu'on avait quand on était en salle de cinéma et qu'on écoutait ce film.
Voilà. On se rend compte qu'il y a un besoin important.
Non, mais voilà, donc il faut vraiment... c'est pas des petites modifs. Au début, c'est ce qu'on pensait. On se disait, on a le 5.1 d'origine. On fait quelques petites... une petite réduction de la dynamique, etc. Ça va très bien passer. Ben non, il faut aller plus loin et c'est ce qu'on fait.
Eh bien, merci beaucoup. Merci à Cyril Holtz. Merci à Niels Barretat de la société HAL.
Merci
donc
beaucoup.
Toute merci. Jeune société. Et je vous souhaite longue vie et beaucoup de travail.
Beaucoup. Merci beaucoup.